Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire à l'Est, la société civile du Nord Kivu a, au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa vendredi dernier, recommandé au gouvernement central d'éviter par tous les moyens de consacrer la balkanisation de la RDC et de tribaliser les conflits armés du Nord Kivu, dont les causes sont clairement rwandaises. Elle propose aussi de mener des grandes actions de lobbying auprès de la communauté internationale. Comment analyser les recommandations de la société civile du Nord Kivu? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 25 juin 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Thomas Dakia Mwiti. Il est président de la société civile du Nord Kivu. Il est en ligne. Monsieur Mwiti, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi.
Merci. Le sénateur Moulaïla Takis, cadre du PPRD et rapporteur de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Monsieur Moulaïla, bonsoir.
Madame, je suis le président des sénateurs du Maniema au Sénat. Bonsoir. Je salue tous les auditeurs. Je salue aussi toute votre hiérarchie et je vous salue aussi, madame.
Merci, sénateur. Professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir. On a un problème avec la ligne du professeur Kabamba. La réalisation va essayer de le retrouver. Vous, auditeurs des Radio Capi, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Ngoï Alexis de Kalemi au Katanga. Les recommandations de la société civile du Nord qui vous sont venues au point nommé, mais la véritable cause de cette guerre n'est pas le tribalisme, mais plutôt les intérêts des hommes politiques qui font souffrir le pauvre citoyen congolais qui n'en sait rien, que la conscience interpelle les bifaces qui entourent le gouvernement, ainsi que les officiers militaires des hauts rangs qui trahissent la nation congolaise tout entière, et les fils et filles du Kivu en particulier. Didier Moutiki Likundula de Bukavu, Sud-Kivu, le recours à la communauté internationale n'aura aucun impact positif, moins encore la guerre contre les mutins. Comment expliquer que le gouvernement, conscient de la situation actuelle de l'Est, peut proposer un budget qui n'apporte pas d'accroissement considérable sur la portion allouée à l'armée? Pourquoi la société civile du Nord Kivu a oublié le plaidoyer dans ce sens? Que pouvons-nous attendre de l'effort des militaires mal payés? C'est regrettable. Merci de nous suivre à Goma, au Nord Kivu, sur la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La coordination de la société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement à veiller notamment à l'unité nationale et éviter par tous les moyens à consacrer la balkanisation de la RDC. Cette recommandation a été formulée au cours d'une conférence de presse tenue vendredi dernier à Kinshasa. À la même occasion, cette institution citoyenne a fustigé l'impunité dont bénéficient certaines personnes à la base de l'instabilité dans l'est du pays. La société civile parle notamment de l'attaque en 2014 de la ville de Bukavu et des tueries de Kiwanja au Nord Kivu en 2008. Pour mettre fin à la crise, la société civile donne quelques recommandations. Alain Hung pour les détails.
La coordination de la société civile du Nord Kivu recommande aussi au gouvernement d'assurer la prise en charge conséquente des militaires engagés au front en ce qui concerne leurs soldes, leurs rations alimentaires ainsi que leurs équipements et procéder par leur stricte identification en y écartant les infiltrés. Elle demande également au gouvernement congolais de revoir la stratégie du commandement militaire sur les lignes de front et au besoin la relève permanente de ce commandement étant donné la suspicion impliquant la trahison par certains officiers en charge des opérations agissant à la solde des rebelles qui sont censés combattre. Aux députés nationaux, la société civile du Nord Kivu recommande, entre autres, d'interpeller constamment le gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire du Nord et Sud Kivu, la recherche et le maintien de bonnes relations à travers une diplomatie agissante RDC-Rwanda. Enfin, aux représentants des missions diplomatiques accréditées en RDC, la société civile du Nord Kivu leur demande, par exemple, d'inviter leurs États à suspendre toute aide au Rwanda afin de le contraindre à contribuer à la stabilité de la sous-région et d'opter pour une politique de bon voisinage.
Merci Alain Rung pour tous ces détails. Thomas Dakiamwiti, je rappelle que vous êtes président de la société civile du Nord Kivu. Les recommandations que vous avez formulées à l'endroit du gouvernement, est-ce parce que vous avez constaté que le gouvernement ne fait pas assez par rapport à la situation qui se vit aujourd'hui au Nord Kivu?
Bon, merci madame pour la parole, merci à Alain pour la synthèse qu'il vient de donner en rapport avec les recommandations que nous avons formulées. Ce n'est pas pour dire que nous avons constaté que le gouvernement ne fait rien, pas du tout. Nous reconnaissons tous les efforts que notre gouvernement est en train de fournir dans le cadre du maintien de la paix. C'est notamment les différents programmes qui ont été mis sur pied, qui ont été appuyés sur le plan des hommes, des ressources financières et des moyens militaires. Mais nous avons pensé que notre gouvernement n'est pas suffisamment informé de ce qui se passe sur le terrain.
Si comment nous avons ça parlé comment vous expliquez
de,
cela
de la tribalisation. Si nous avons parlé de la tribalisation, c'est parce que au sein des acteurs politiques, il se développe une manière de vouloir considérer la guerre à l'Est comme étant un conflit entre les tribus, entre les communautés tribalo-ethniques. Et nous disons non, ce n'est pas ça la situation. Si nous parlons de la balkanisation, nous avons des preuves. Nous avons des preuves que le Rwanda, c'est tout simplement un cadre qui est utilisé par ceux-là qui ont toujours voulu, qui ont toujours souhaité que cette partie du territoire soit une zone annexée au Rwanda, soit une partie qui soit autonome à la solde du Rwanda, étant donné que le Rwanda voudrait utiliser cette partie comme un déversoir du trop plein de ce pays qui, sur le plan démographique, est en train de manifester une quelconque insuffisance sur le plan territorial afin de bien gérer la démographie de son pays.
Thomas Dakiamwiti, excusez-moi.
Pour déconsidérer les efforts, s'il vous plaît.
Je disais, quelles preuves vous détenez? Parce que vous dites que vous détenez des preuves que le Rwanda voudrait assez qu'on puisse soit diviser le pays ou et pour la balkanisation de la RDC. Quelles preuves vous détenez?
Première preuve, madame. Aujourd'hui, le Rwanda vient de créer et d'appuyer plus de 5 groupes armés. Je cite, le premier groupe armé, sans passer par 4 chemins, c'est le M23. S'il faut me poser la question, pourquoi nous confirmons que le M23 bénéficie de l'appui du Rwanda? La première chose, c'est que, je m'excuse pour ne pas divulguer le secret d'État, c'est de signaler que Bosco Ntaganda se trouve aujourd'hui au Rwanda. De deux, Laurent Kunda, qui a mené toute la guerre, qui a meurtri le pays, se trouve actuellement au Rwanda. Et lorsque le pays, la RDC, le gouvernement congolais a sollicité l'extradition de Laurent Kunda, le Rwanda a posé des préalables pour dire que le Congo continue à maintenir la peine de mort comme si Laurent Kunda c'est un citoyen rwandais. Et donc, s'il faut continuer, vous allez comprendre que Jules Moutebousi se trouve aujourd'hui encadré au Rwanda. Les hommes qui sont recrutés au Rwanda sont en train de travailler du côté de M23. Et donc, toutes ces preuves-là attestent que M23 est vraiment un mouvement politico-militaire qui travaille avec l'appui du gouvernement rwandais. Comme si cela ne suffisait pas, madame, rentrons sur le terrain. Parmi les groupes armés opérationnels, je cite le groupe Sheka. Le groupe Sheka, et Sheka lui-même, dans les semaines qui viennent de s'écouler, Sheka lui-même était à Kigali pour aller récupérer de l'argent et d'autres stratégies allant dans le sens de travailler du côté en faveur du Rwanda. Il y a le guide
qui ont bénéficié de l'appui de Bosco Ntaganda, qui travaillait à la solde du Rwanda, bien entendu. Et enfin, Raia Mutomboki, c'est aussi un groupe armé qui travaille avec l'appui du Rwanda, étant donné que le Rwanda souhaiterait au départ l'idée initiale d'appuyer ces groupes armés, c'était de dire que ces groupes armés doivent traquer les FDLR.
Et Thomas Dakamu, s'il vous plaît, vous avez donné les preuves là, vous avez donné les preuves que vous
dites. En
30 secondes, on doit passer la parole aux autres invités.
Tout à fait. Et donc, avec tous ces groupes armés, madame, le Rwanda voudrait transformer la partie est de la RDC comme une partie ingouvernable et donc une partie qui doit être gérée en faveur de la balkanisation, en faveur du Rwanda, pour que cette partie soit utilisée comme un déversoir du Rwanda. Et ce sont des preuves éloquentes, madame, qui sont convaincantes en même temps. Et donc, on ne peut pas se douter de l'appui du Rwanda ou de l'idée du Rwanda à malmener cette partie du territoire national congolais.
Merci, Thomas Dakamuiti, sénateur Moulaïla Tekis. Je rappelle que vous êtes président du groupe provincial du Maniema, rapporteur de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Comment vous analysez les recommandations de la société civile au gouvernement congolais?
Cette société civile, madame, je vous remercie de me faire l'honneur de participer à cette séance. Je suis rassuré, madame, que vous allez m'accorder le temps, parce qu'il ne s'agit pas, comme me disait un politicien, d'une faveur, on est dans un avantage de la magie, de la nouvelle technologie, mais vous voulez que le peuple soit informé.
On a un chrono, donc on va suivre le chrono.
Votre chrono, vous le suivrez. Je souhaite que je parle une seule fois et que tout le monde puisse me suivre, que de parler plusieurs fois sans rien dire.
C'est un débat, madame. Honorable Moulaïla.
C'est un débat, je suis en train de dire. Un, notre armée. Et partant de là, le problème de la balkanisation et tout autre problème invoqué par la société civile. Mais la société civile, madame, ça veut dire quoi? C'est ce peuple qui vit au quotidien les réalités de son milieu. C'est ce peuple qui n'est pas parmi les politiciens, qui n'est pas parmi les militaires, qui n'est pas parmi ceux qui sont au Parlement. C'est le prolongement. Ou c'est ça la volonté populaire? Moi, j'approuve, à quelques exceptions, tout ce qui est dit par le président de la société civile. Moi, j'ai été en contact. Je considère que la société civile est unique. Mais aujourd'hui, madame, vous savez, tout ce que nous connaissons à l'Est, c'est le Rwanda. Je vous le confirme. Je ne prends même pas la conférence de presse de la société civile comme référence. Moi, j'ai été dans tous ces milieux. Celui qui parle aujourd'hui comme président, peut-être hier, il était aussi dans la société civile. J'ai été dans tous les milieux et j'ai rencontré certains acteurs qui sont cités ici. Je parle de Kunda Batware. Je parle d'Ntaganda. Mais je connais le discours d'Ntaganda.
Ntaganda.
Ntaganda. Bon, je peux l'appeler Ntaganda ou quoi, mais c'est Ntaganda son nom, mais il sait que c'est de lui dont je parle. Pourquoi moi je parle du Rwanda? Le Rwanda a toujours prétesté qu'il est en train de faire la poursuite de forces négatives au Congo. Et là, on parle des intérêts, oui. Historiquement, la RDC n'avait jamais accepté la présence des Rwandais au Congo. Quelquefois, il faut citer certaines personnes quand ils ont eu des bonnes initiatives. Et là, je vous recommande, madame, vous pouvez aller voir Kengo Wadondo, à l'époque Premier ministre. L'histoire nous renseigne. Quand il fallait déverser les Hutus en République démocratique du Congo, le Premier ministre de l'époque, que je viens de citer, avait demandé qu'ils aillent très loin des frontières. Mais la gouvernance internationale, madame, avait dit non. Ces gens qui viennent de chez eux sur base de conflits, un conflit tribal. Et ce conflit tribal a créé des génocides. Et cette gouvernance internationale a imposé à Mobutu, que je respecte beaucoup, que son âme repose en paix, d'accueillir les Hutus. Vous me suivez, madame? Ce sont les données historiques. À ce moment-là, on nous les a accueillis, et on a même imposé où est-ce qu'il faut les installer. Madame, je suis en train de vous parler, soyez patient.
Oui, honorable sénateur, mais là on est en train de parler de recommandation, là vous nous ramenez dans l'histoire, c'est vrai.
C'est important pour la population.
C'est important pour la population, vous-même vous venez de dire que tout ce qui se passe à l'Est aujourd'hui c'est le Rwanda, et tout le monde le sait, mais pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé depuis tous ces temps? Parce que vous saviez que c'était le Rwanda qui était à la base.
Ça a été très bien dénoncé, il faut suivre le rapport de la mission des sénateurs, madame.
Mais qu'est-ce qui a été fait?
Et dans ce rapport... Mais non, tout a été fait.
Quoi, par exemple, puisque la
Suivez
situation...
Suivez ce que le gouvernement a fait, madame. Je vais partir même, avant même que je sois au Sénat. Il y a eu Lusaka, il y a eu Sand City. Madame, suivez toutes les résolutions qu'il y a eu. Mais comme le Rwanda, en complicité avec la gouvernance internationale, avait pour objectif la balkanisation, avait pour objectif d'utiliser le Rwanda comme tampon pour exploiter irrégulièrement et même piller les ressources. Qu'est-ce qui s'était passé? Madame, moi je vais vous donner des précisions. Il y a eu des réseaux qui avaient été créés. Ces réseaux qu'ils ont créés, réseau militaire, réseau politique, réseau économique, RCD, quand nous étions à 1+4, l'armée, qui ont dirigé l'armée, vous trouvez, Ondekane était là, Onosumba était là, je les cite, pour raison de clarté que le peuple le sache. Rubeirwa, comme organe politique, Kunda m'avait dit, la présence de Rubeirwa ne garantit pas la paix. Nous allons toujours continuer. Madame, laissez-moi parler.
Alors est-ce qu'on peut revenir aux recommandations, sénateur?
Pour revenir aux recommandations, madame, je voudrais vous préciser que ces recommandations... En dehors d'une erreur, et j'espère que ce n'est même pas une erreur, quand on parle des soldes des militaires, je dirais aussi du salaire des fonctionnaires, je dirais de ceci. Mais tout est en rapport avec la production du pays. Mais ce qui est vrai, madame, vous devez le reconnaître. Vous devez le reconnaître. Tout avait été bien piégé et bien préparé par cette gouvernance internationale. Et le Rwanda, aujourd'hui, instrumentalisé par cette gouvernance internationale, madame, économiquement, vous savez que c'est le Rwanda?
Je vais vous redonner la parole, sénateur, vous êtes déjà à 6 minutes 45 secondes.
Je peux aller même au-delà.
Non, c'est un débat, laissez-moi le temps de passer la parole à l'autre invité qui est en ligne, c'est le professeur Félicien Kabamba. Vous êtes chercheur au Centre d'études politiques à l'UNIKIN. Professeur, comment vous analysez ces recommandations de la société civile?
Oui, merci. Je dois dire qu'il faut d'abord saluer l'initiative de la société civile qui a trouvé que la question sécuritaire est une question centrale, une question qui jusque-là a été gérée par Kinshasa depuis plusieurs années. Cette gestion n'a pas apporté des améliorations substantielles. Et il est vrai que lors des derniers jours, on a vu que Kinshasa veut continuer à gérer, à faire de cette question une affaire du pouvoir central. Et je crois que la société civile, là, a lancé une réflexion qui est assortie de bonnes recommandations, après, bien entendu, un diagnostic assez précis. Mais pour quiconque veut comprendre l'État congolais dans ses rapports avec sa population, ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est pas seulement l'échec de l'armée face aux rebelles, fût-il appuyé par un pays étranger, mais c'est véritablement l'échec d'un système de gouvernement. Cela dénote également, évidemment, l'incapacité de Kinshasa à construire une armée qui répond aux besoins sécuritaires de sa population. L'une des questions que l'on se pose, c'est de combien de temps Kinshasa a besoin pour construire une véritable armée. Et il y a, c'est vrai, une évolution dans les discours du gouvernement. Par le passé, c'était un discours de fermeté, et aujourd'hui, on a glissé un tout petit peu vers la modération. Ce qui est vrai, c'est que Kinshasa ne peut pas continuer dans les discours de fermeté tant que Kinshasa ne dispose pas d'une force de feu, une force de dissuasion qui est en mesure de dissuader tout aventurier à l'est du pays qui se donnerait comme ambition d'attaquer les populations ou d'attaquer le pouvoir en place. Mais là, véritablement, Kinshasa n'a pas, ne détient pas cette force de dissuasion. Kinshasa n'a pas pris le temps de construire une armée, parce que s'il y en avait, cette force de l'Est aurait déjà pris fin. Et aujourd'hui, il faut que Kinshasa ne continue pas à nous clamer des bons poèmes, mais qu'il soit en mesure d'assurer la sécurité à l'Est du pays, et c'est cela que la population attend. J'ai beaucoup apprécié beaucoup des recommandations qui ont été faites, et je crois qu'il faut les prendre très au sérieux. Les détournements des soldes de militaires, les détournements de tous les fonds. Je crois qu'il y a là, véritablement, une réflexion à faire en profondeur. Je voudrais plutôt que le sénateur qui est là et qui représente l'autorité de l'État dans ce débat ne soit pas à la défensive, mais que plus ou moins froidement, que l'on puisse voir chaque recommandation l'une après l'autre pour voir si ces recommandations sont fondées ou non. À mon point de vue, je les ai analysées une à une, et je trouvais que dans ces recommandations, il y a bien entendu beaucoup de choses qui peuvent apporter de l'inspiration au gouvernement.
Alors, professeur...
Et on ne s'attaque pas, je ne sens pas qu'on s'attaque ici au gouvernement, mais il est plutôt question de faire un espace public autour de la question de sécurité, qui est une question qui engage toute la population, qu'elle soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. La question de la sécurité n'est pas seulement une question des sénateurs. Elle n'est pas seulement une question du gouvernement. Elle est une question de tout le monde. Parce que finalement, quand il y a l'insécurité existe pour tout le monde. Il faut donc en faire un espace public, un espace de débat, où, probablement, on a suivi notre ami de la société civile qui a parlé, et il est parti d'un constat qu'il a comme l'impression que Kinshasa ne connaît pas très bien ce qui se passe sur terrain. Qui sait s'il a raison ou il a tort.
Alors, professeur,
il faut que cette question soit une question parce qu'elle implique la vie de l'État, la vie de toute la nation, elle implique qu'on dresse un espace public autour de cette question centrale. Elle ne peut pas seulement être une question laissée au seul gouvernement ou au seul Parlement, mais elle doit être une question qui touche à tout Congolais. La sécurité, c'est une affaire de tout le monde.
Professeur Félicien Kabamba, on a suivi le sénateur pendant qu'il faisait son analyse dire que la RDC est victime d'un complot international. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, que l'on dise qu'il y a complot international, c'est bien. Mais est-ce que les Congolais ne sont pas en mesure de s'organiser pour ou contre ce complot international? Parce que l'on parle de la menace qui vient du Rwanda. Nous, on est Congolais. Je crois que nous devons fiers d'être Congolais. Est-ce que nous, en tant que Congolais, nous pouvons véritablement nous plaindre d'une quelconque menace qui viendrait du Rwanda? Que peut représenter le Rwanda par rapport à la RDC? Est-ce que c'est véritablement là le problème? Le problème, c'est, est-ce que nous, en tant qu'État, nous, en tant que peuple congolais, nous sommes à mesure de nous organiser pour nous défendre contre n'importe quelle agression extérieure? C'est véritablement là qu'il y a le problème.